Eh bien, on est de retour toujours en direct du Palais des Sports pour ce Forum des Associations. On vous rappelle que l'événement, c'est 1, 2, 3, rentrée, c'est jusqu'à 18h. On est donc, nous, en direct du Palais des Sports pour le Forum des Assos. Vous avez le Forum du budget participatif du côté de l'Hôtel de Ville de Grenoble. Et puis, du côté de la Halle Clémenceau, c'est le Forum des Sports qui vous attend. On va passer à notre dernier plateau de la journée. Merci à mon collègue Christophe qui a enchaîné tout à l'heure je ne sais pas combien de plateaux.
Mais bravo.
5, 7, ouais, mytho. Pour ce dernier plateau, nous, on va s'intéresser à la thématique de la transition énergétique et sociale. On parlera des freins, des changements, des nouvelles pratiques. Bref, vaste sujet. Et pour en parler avec nous sur ce dernier plateau, eh ben, on a des invités et on va les laisser un peu se présenter et présenter leur structure, alors différentes associations. Nous avons tout d'abord Brigitte Mongaudin qui représente Alpes Solidaires. Bonjour.
Bonjour.
Nous avons Jérémy Cicéron qui représente Alternativa Grenoble. Bonjour.
Bonjour.
Nous avons Merlin Dubergier pour l'association Épisol.
Bonjour.
Et enfin, nous avons Franck Montaudon pour l'association Les Habiles.
Bonjour.
Bonjour. Alors, on va tout de suite faire un petit tour de table pour présenter vos structures, si vous voulez bien. Brigitte Mongaudin, Alpes Solidaires, qu'est-ce que c'est? Depuis combien de temps? Et que faites-vous au sein d'Alpes Solidaires?
Donc, Alpes Solidaires est une association qui s'est créée en 2003 avec pour objet de trouver un outil de fédération des structures de l'économie sociale et solidaire. Et ça s'est consolidé autour du site internet qui existe et qui s'appelle Alpes Solidaires et qui s'adresse à toutes les structures de l'économie sociale et solidaire du territoire métropolitain pour venir proposer des actions, faire des contributions sur le site. Et petit à petit, l'association s'est étoffée et se donne aujourd'hui pour mission d'animer les acteurs de l'économie sociale et solidaire sur le territoire, de favoriser les coopérations et mutualisations entre ces différents acteurs. Et donc, toujours, on a gardé le site qui est un outil qui nous permet d'être bien identifié, bien repéré sur le territoire, d'animer ce site internet au moyen d'un partenariat avec l'association, la structure d'insertion Le Bon Plan.
D'accord, très bien, merci. Je donne la parole à Jérémy Cicéron. Est-ce que tu peux nous présenter Alternativa Grenoble et
oui,
son actions?
Avec plaisir. Donc, le nom complet, c'est Alternativa Action Non-Violente COP21, parce que c'est deux groupes qui sont fusionnés à Grenoble.
Très bien.
Et donc Alternativa va se focaliser sur la mise en valeur, la promotion des alternatives, les alternatives écologiques au capitalisme, donc tout ce qui est... AMAP, finance solidaire, finance éthique, société coopérative pour développer les énergies renouvelables, ce genre de choses. Donc ça a pris la forme de village des alternatives, de tour Alternativa pour essayer vraiment de mettre en valeur ce genre d'initiative. On a aussi toute une partie d'Alternativa qui fait du plaidoyer auprès des élus typiquement. Donc il y avait un bon projet par rapport au municipal, là les candidats étaient invités à s'engager à respecter le pacte pour la transition, qui est une initiative nationale avec des engagements qu'on peut prendre au niveau des territoires. Parce qu'il y a quand même pas mal de choses à faire au niveau des territoires, même si toutes les compétences ne sont pas toujours là. Et la branche Action non-violente COP21 va se focaliser sur la désobéissance civile. Donc là, il s'agit plus de faire pression pour essayer d'empêcher des projets financés par des grandes banques françaises ou des grands projets inutiles, ce genre de choses.
Très bien, merci Jérémy. Franck Montaudon pour l'association Les Habiles.
Oui, donc Les Habiles est une association qui existe depuis 2008, donc on a 12 ans aujourd'hui. Donc c'est une association qui fait la promotion et qui accompagne les projets alors qu'on appelle aujourd'hui d'habitat participatif. On appelait ça il y a une vingtaine d'années les habitats autogérés puis l'habitat groupé. En fait, c'est des personnes, des citoyens qui se regroupent pour réfléchir comment finalement habiter ensemble, alors pas ensemble, hein, chacun dans son logement, mais comment repenser finalement nos relations de voisinage, tout simplement, pour se rendre un peu de service, pour réfléchir comment on va concevoir aussi notre lieu de vie. En fait, souvent, on achète un logement qui est une case dans un immeuble, par exemple. Et là, c'est d'entamer cette réflexion. Comment, à travers la conception de notre logement, notre façon de vivre, on va pouvoir favoriser cette relation de voisinage, cette aide entre les personnes et une certaine solidarité entre nous. Et aussi, il y a toute une démarche souvent portée par les groupes autour de l'écologie et du développement durable. Hein. C'est la façon d'habiter, c'est aussi voir comment on a notre impact. Et c'est souvent à travers le changement de comportement qui se crée dans l'émulation du groupe qu'on arrive à faire des choses intéressantes. Voilà.
Repenser un peu la copropriété, c'est ce terme-là, quoi, en fait, un peu.
Un petit peu, oui. Ouais. Oui, en termes de gouvernance, tout à fait. Les groupes réfléchissent beaucoup en termes de gouvernance. Les groupes essaient de favoriser donc le consensus, hein, c'est-à-dire qu'il faut que tout le monde soit d'accord pour qu'on prenne une décision. Donc là aussi, il y a une démarche assez intéressante sur la communication dans le groupe, sur la prise de décision. Voilà. Et on est une association maintenant qui de plus en plus donc accompagne les groupes, mais accompagne aussi les collectivités. Puisque, évidemment, on ne peut pas créer des logements. Enfin, on est obligé de s'insérer dans un processus économique qui est assez, on va dire, cadenassé. Donc, on accompagne les collectivités pour essayer de faire, de leur montrer un peu les pistes. Hein. On commence à avoir une bonne expérience pour favoriser l'émergence de projets dans leur commune. Et c'est quelque chose qui intéresse forcément les villes, puisque ça crée des dynamiques intéressantes sur ces lieux-là.
Très bien, merci. Et puis enfin, Merlin Dubergier pour l'association Épisol.
Oui, bonjour. Du coup, Épisol, c'est quelque chose qui s'est créé il y a 6 ans à peu près, si je ne dis pas de bêtises. Ça s'est créé sur la base d'un magasin solidaire et non social. L'idée de base était d'accueillir, donc que ce soit ouvert à tous. Et on avait un public à la base, enfin, on cherchait un public, on va dire, on appelle ça travailleurs pauvres chez nous. C'est surtout des gens qui ont peu de moyens, mais qui vont pas avoir accès à un certain nombre de structures sociales parce qu'ils ont quand même un certain nombre de revenus. Et donc nous, l'idée était de pouvoir proposer quelque chose dans ce magasin. Donc on marche sur un principe de tarification solidaire. On va avoir 3 tranches de prix différentes en fonction du revenu des gens. Donc, la plupart du temps, on se base sur le quotient familial, mais après, ça va dépendre de tout à chacun, de la situation de chaque personne. Et donc, on a commencé sur ce magasin et derrière, on a beaucoup travaillé avec la ville et on a mis en place un système d'AMAP, notamment qui fonctionne sur toute la ville de Grenoble. Et aujourd'hui, on fonctionne aussi avec un dispositif qui s'appelle La Mobile, qui est un magasin mobile qui va, lui, bouger sur certains quartiers. Donc on est actuellement sur Mistral, Pont-de-Clé, les quais Saint-Laurent et Henri Vallon à Saint-Martin-d'Air. Et donc l'idée aussi est là d'encore ouvrir à de nouveaux publics, à chercher toujours, on attache une grande importance à la mixité des publics qu'on va accueillir dans notre magasin. Et donc voilà, toucher un peu plus loin dans Grenoble, rayonner un peu de plus loin. Voilà.
D'accord. Donc on est bien conscient là avec ce plateau qu'en termes de transition écologique, sociale, économique, les alternatives, on est bien au fait avec nos invités. Aujourd'hui, d'après vous, selon pour toutes ces transitions, quels seraient les plus gros freins? Je ne sais pas si vous avez tous le même point de vue selon vos secteurs. Les freins au changement nécessaires dans la société, est-ce que ça vient des citoyens? Est-ce que ça vient des pouvoirs politiques? Est-ce que ça vient d'un côté industriel? Je ne sais pas. Est-ce que vous avez quelqu'un? Si quelqu'un veut répondre.
Jérémy pour Alternativa. Ouais. Je pense que les freins, ils sont quand même multiples. Il faut le reconnaître. C'est vrai qu'il y a un blocage au niveau de l'État. Je pense qu'on ne peut pas le cacher. Mais on peut aussi accuser la finance, l'économie, l'Union européenne, on peut accuser plein de choses. Et c'est vrai qu'il y a des gros blocages à ce niveau-là. Mais je pense que de manière générale, il y a quand même aussi une bataille culturelle à mener. Et c'est nous, chez nous, c'est quelque chose sur lequel on essaye d'avancer. Je pense que même si, donc nous, notre combat principal, c'est le réchauffement climatique. Et même si on a beaucoup progressé, je pense, ces dernières années en termes de conscience du problème dans la population, je pense que l'ampleur du problème, les mécanismes et quelles sont les marges de manœuvre qu'on a, quelle est la société qu'on doit mettre en place pour atteindre nos objectifs, c'est-à-dire diviser par 6 nos émissions de gaz à effet de serre, ne serait-ce que pour qu'on puisse arrêter de réchauffer le climat, et ce, non seulement chez nous, mais un peu partout dans le monde. Je pense que beaucoup de gens n'intègrent pas du tout les changements qu'on doit faire, qui sont majeurs, et c'est pas juste de passer de la voiture thermique à la voiture électrique qui va résoudre le problème, ou de faire voler des avions au biocarburant qui va résoudre le problème. Donc effectivement, ça pose de gros soucis économiques. Il y a aussi des blocages psychologiques. Ça induit beaucoup de peur, je pense, et beaucoup de gens ont du mal à intégrer ces informations parce qu'elles sont relativement blessantes, un peu déprimante aussi des fois, ouais. Sur le constat. Alors sur les solutions, il y a des choses à faire, mais ça induit beaucoup de changements. Et globalement, on n'aime pas naturellement changer. L'être humain n'est pas super fort pour ça. Et donc, je pense qu'il y a un peu des blocages psychologiques liés à la peur à différents niveaux. Donc voilà, je pense qu'il y a des choses à faire à tous les niveaux, au niveau politique, au niveau local, tenter de construire des choses en local, faire des expériences et discuter avec des gens, créer de la solidarité, des communautés, de gens qui peuvent vous apporter des conseils, du soutien aussi, ce genre de choses, voilà.
D'accord. Vous vouliez aussi exprimer.
Moi, je peux répondre. Franck Deshabille. Donc nous, au niveau de l'habitat, puisque c'est un peu notre domaine d'action, on voit bien que de toute façon, il faut changer au niveau politique, hein. Il faut faire de la... On est obligé de travailler le côté politique puisque les collectivités ont un pouvoir sur, par exemple, l'accès au foncier, les choix sur les AC, etc. C'est sûr. Il y a aussi le système et les comportements. Je rejoins ce qui a été dit. Il faut que les gens changent de comportement. Et ça aussi, c'est... Alors, les gens, c'est les citoyens, mais c'est aussi les acteurs économiques. Aujourd'hui... quand on construit un logement, si on prend un promoteur, il a des impératifs et des lignes directrices qui ne sont pas dictées, qui sont surtout dictées par des contraintes économiques. Et bon, nous, on reste, moi je reste assez positif. Le changement de comportement avec les acteurs locaux là, qui existent, ça, petit à petit, ça fait son chemin. Moi, je vais vous citer un exemple tout simple. Cet été, on a été contacté par un promoteur immobilier qui doit répondre à un appel d'offres sur une ZAC de la commune, enfin, pas de cette commune, mais de l'agglo. Et il veut absolument se différencier. Aujourd'hui, on va dire, l'aspect construction, peut-être avec des panneaux solaires, etc., ça fait plus trop la différence. Et c'est vraiment dire, on veut mettre l'habitat participatif, on veut que notre se différencier des autres propositions par l'habitat participatif parce qu'on veut remettre les gens au centre, etc. Donc on voit bien qu'il y a aussi un changement au niveau des acteurs et ça c'est du travail. Hein. Ça fait 10 ans que c'est la première fois en 10 ans que quelqu'un vient nous voir comme ça.
Ça a fini par payer en 10 ans.
ça paye pas encore, mais on voit qu'il y a une évolution sur les comportements.
Il y a en tout cas une prise de conscience et dans le comportement. Peut-être vous vouliez réagir aussi à Brigitte, s'il vous plaît, un peu solidaire.
Je vais dire que ce qui fait peur dans la transition, c'est justement cette étape-là, potentiellement de transition, où effectivement on veut essayer de lâcher quelque chose et aller vers autre chose, mais il y a cette espèce de pas là qu'il faut faire et sur lequel on est encore dans un entre-deux. Vous parliez de... que ce soit aussi bien économiquement que culturellement ou politiquement, il y a effectivement des freins qui sont à lever. Donc, à l'échelle d'Alpes Solidaires, on voit bien qu'il y a des actions qui se mettent en place, des initiatives citoyennes qui sont un peu alternatives, mais qui trouvent difficilement une place, un soutien, parce qu'elles sont justement un peu, elles font ce pas de côté sur la solidarité, sur le volet social de leur action, et elles ne rentrent pas dans un schéma classique, économique, attendu, et donc nous, à Alpes Solidaires, l'axe de réflexion qu'on a et d'accompagnement qu'on a auprès de ces structures, c'est aussi de travailler sur tout ce qui est la coopération et la mutualisation, Donc ça, c'est intéressant. Et ce qui bouge un peu au niveau peut-être culturel et politique et qui demanderait à être un peu, à aller un peu plus loin, c'est cet axe qui autorise aujourd'hui d'expérimenter des initiatives, des actions et pas essayer de se dire que tout doit être absolument calé autour, bordé de tous les côtés avant de se lancer, mais qu'on peut essayer petit à petit des choses et que bah, voilà, on réajuste
au fur et à mesure, voilà. Ouais, on compose. Bah, justement, avec le pas de côté et justement ces modèles différents, Episol qui en est un, parce que voilà, sur ce que tu nous as expliqué tout à l'heure, Merlin, donc voilà, une épicerie solidaire, des tarifs
différents en fonction
tout ça et tout. Qu'est-ce que vous constatez, vous, à Episol? Est-ce que, pareil, ça s'ajuste? Est-ce que les gens sont pas sûrs encore? Est-ce qu'ils ont l'habitude de ce genre de nouvelle épicerie, quoi?
Les gens sont curieux, surtout. Nous, on a beaucoup impacté au début un quartier. On a commencé sur le quartier de la Capuche et ça a beaucoup impacté le quartier. Et c'est vrai qu'on avait cette envie de créer un lieu de vie. Et donc, les gens sont curieux de venir et de voir comment ça se passe. Et en vrai, on remarque aussi que dans un niveau très local, il y a peu de freins. Les gens sont prêts, parfois, surtout sur la question d'alimentation aujourd'hui, à passer petit à petit le cap. Je pense que sur des niveaux d'hierarchie plus haut, mais sur lesquels nous on peut moins le voir sur le terrain, sur des niveaux politiques, sur des niveaux de l'État, oui, il y a des choses qui seraient bon de changer, notamment au niveau des soutiens financiers pour certaines personnes qui viennent à notre magasin, etc. Mais on remarque qu'en tout cas dans des quartiers, il y a plein de quartiers qui sont prêts à voir ces changements en fait et qui sont demandeurs. Ils le voient pas parce qu'on leur a pas proposé, mais une fois qu'on leur propose, les gens sont curieux, les gens veulent voir.
Que j'allais dire, en revenant justement sur ce que vous disiez, Brigitte, sur la peur. En général, la peur, des fois, c'est souvent parce qu'on sait pas quel va être l'autre modèle, on en quitte un et on a peur parce qu'on sait pas vers quoi on peut aller. Mais là, on a plein d'exemples différents, de plus en plus, avec des associations comme les vôtres, justement, qui montrent déjà sur des petites échelles, ou en tout cas des échelles pas nationales, mais qui montrent des choses. Et donc, quelque part, c'est là où je m'interroge. Je me dis, des fois, on a peur quand on ne connaît pas, mais là, on a plein de petits exemples. Alors, pourquoi, à des moments, ça prend pas au niveau plus grand, quoi, en fait, je me demande. Bon, c'était une rhétorique. Après, si quelqu'un a une réponse.
Je pense que c'est aussi qu'il y a des choses qui sont bien construites déjà et que ça fait des années qu'elles sont construites. Donc, la déconstruction de tout ça aussi est assez compliquée. Et je pense qu'aussi pour des personnes lambda, enfin n'importe qui, on a aussi aujourd'hui un surplus d'informations. En effet, il y a plein de projets qui sont proposés, mais tellement de projets qu'on a du mal à comprendre vers quelle transition on va, en fait, des fois. C'est un peu compliqué, je pense, pour les gens de choisir, de comprendre. On a beaucoup d'informations qui sont parfois contradictoires. Donc,
Il y a la question aussi de l'information et des recherches d'informations. Est-ce qu'on est vraiment assez informé? Parce que des fois, on tombe soit sur un discours un peu, on va dire, négationniste du problème, soit environnemental, soit social. Et à la fois, on tombe soit sur ça, soit sur un côté tout alarmiste, vachement qui sont là, qui nous font peur. Alors, comment se retrouver dans tout ça? Comment les auditeurs, comment le citoyen lambda peut se retrouver dans tout ça et faire un équilibre, d'après vous?
Oui, mais je pense que c'est pas évident, effectivement. Hein. Si vous cherchez réchauffement climatique sur YouTube, je pense que vous trouvez un bon tiers de vidéos climato-sceptiques, ce qui est assez peu représentatif du constat scientifique sur la question. Le constat scientifique, il est clair. Vous pouvez aller sur le site de Jean-Marc Jancovici. Je trouve que c'est assez pédagogique, c'est bien expliqué. Je pense que sur les alternatives, sur ta question précédente, effectivement, elles prennent pas énormément d'ampleur. Souvent, elles ont des blocages de croissance, quoi. Je pense que ça demande quand même un certain militantisme, pour s'impliquer dans ces structures-là. Justement, j'en profite. J'ai un message de l'Éléphane, qui est une des structures, qui a un magasin participatif solidaire.
On l'a déjà interviewé aussi, ouais.
Et il manque un peu de monde, donc pour démarrer cette année. Donc là, toute la semaine, ils font des portes ouvertes. L'après-midi, donc s'il y a des gens qui veulent s'impliquer là-dessus, qu'ils n'hésitent pas. Et ouais, ils ont eu un petit creux d'activité là, parce que voilà, il n'y avait plus assez de gens motivés pour s'impliquer, pour porter ça. Et c'est vrai que ça prend du temps de s'impliquer dans ces structures-là. Et donc, souvent, on le fait pour des valeurs, parce qu'on pense qu'il y a autre chose que juste de la consommation, qu'on se pose la question des conséquences de notre manière d'agir, de consommer. Donc, c'est quand même des initiatives qui naissent d'une conscience politique sur la manière dont on veut changer notre monde. Et bon, le fait est que quand on a plein de contraintes, le boulot qui prend du temps, une famille, voilà, c'est des fois on se détache un peu de ça, c'est compliqué. Et non, je pense qu'il y a plein de raisons qui font que voilà, ça a du mal à prendre de l'ampleur. Mais je pense que toutes ces initiatives, elles ont le mérite de démontrer ce qui est possible de faire, ouais, ce qui peut fonctionner, quelles sont les limites aussi. Mais clairement, après, il y a quand même tout un système économique qui freine des deux pieds pour contre ce système-là. Je pense quand même que c'est pas un secret de le dire. Nous, on a eu des campagnes sur la Société Générale toute cette année parce qu'ils sont vraiment dans le financement des énergies fossiles les plus polluantes et ils veulent pas en démordre, quoi. Voilà, on essaye de faire des blocages, on y retourne une fois, deux fois, cinq fois, dix fois. Bon, là, du coup, le projet, il est tombé parce que le gaz de schiste aux États-Unis s'est effondré à cause des prix du pétrole. Donc, le projet est tombé, mais ce n'est pas tellement grâce à nous, quoi. C'est à cause des prix du marché, quoi. Mais sinon, il n'y a vraiment aucune conscience, quoi. Et au niveau de l'État, c'est pas très brillant non plus, quoi. Enfin,
Est-ce que par rapport au confinement, ces mois qu'on a passés là, je sais que ça a brassé beaucoup de choses chez plein de gens et ça a mis des nouvelles idées en tête et justement aussi peut-être des idées justement de passer à un autre mode de consommation, à d'autres alternatives. Est-ce que vous avez constaté un avant et un après dans des gens qui sont venus vous voir, adhérer, se renseigner?
Oui, alors Franck Deshabille, ouais, ben nous, en tant que dans l'habitat participatif, le confinement a été une expérience qui a finalement montré toutes les valeurs qui étaient portées par ces relations de voisinage. Hein. Il y a eu, on a été pas mal contactés par des journalistes pour voir comment ça se passait chez nous. En fait, assez vite, ce qui s'est passé, bon, par exemple, moi j'habite dans un habitat participatif, assez vite, eh ben, on a essayé de contacter des producteurs du marché qui ne pouvaient plus faire le marché, puisque le maire avait interdit. Donc on a commencé à faire des livraisons dans le garage, à distribuer des papiers pour que les voisins puissent commander et récupérer. Il y a eu un autre habitat à Grenoble où il y a eu un couple assez âgé qui a été contaminé. Donc les autres habitants, eux, se sont confinés dans leur appartement. Les autres habitants ont essayé de faciliter la tâche, c'est-à-dire faire les courses, etc., prendre des nouvelles. Et sur le site Habitat Participatif France, hein, puisque nous, on rayonne aussi... Il y a multiples associations comme ça en France. Il y a eu tout un reportage sur ces solidarités en fait qui se sont dégagées. Et c'était super intéressant. Ouais. C'était super intéressant. Et aujourd'hui, d'autres personnes nous en reparlent. Je vous parlais du promoteur. Aujourd'hui, les questions Covid et comment s'est passé le confinement dans les cités, etc., ça pose beaucoup de questions sur l'habitat et sur la façon d'habiter.
Sur la façon d'habiter, ouais. D'autres constatations sur, par exemple, Alpes Solidaires, je ne sais pas, Brigitte.
Nous, on a plutôt eu des constats par les associations qui sont autour d'Alpes Solidaires, hein, qui participent à nos actions ou qui nous sollicitent. Il y a eu des grands élans de solidarité, des propositions de participation des citoyens pour venir faire de la distribution alimentaire, donner des coups de main sur des associations qui avaient été obligées de fermer leurs portes, soit d'accueil des migrants ou qui cherchaient effectivement des alternatives. Et on voit que ces réseaux existent. Et pour faire le lien avec la question précédente, je pense qu'effectivement, il y a des freins. On voit bien qu'à l'échelle locale, il se passe quelque chose. Il y a des initiatives qui se développent. Le principe de ces initiatives, c'est qu'elles puissent essaimer. Et du coup, l'action aussi qui est possible, c'est que font l'ensemble des associations ici, c'est de faire des actions et de la sensibilisation auprès du grand public. Et petit à petit, on voit bien qu'il y a des choses que peut-être des gens méconnaissent, ils auraient souhaité, mais ils ne savaient pas comment on fait effectivement pour... changer d'alimentation, changer de mode de déplacement. Et par exemple, l'an dernier, dans le cadre du mois de l'ESS, il y a eu un forum sur la Villeneuve, qui a réuni plusieurs associations et où chacune avait mis un pôle. Donc il y avait un pôle habitat santé, un pôle alimentation, et les associations étaient présentes et présentaient leurs actions au grand public qui, voilà, prenait connaissance et peut-être ont changé certaines choses dans leur façon de vivre. Mais voilà, c'est du petit pas, mais il ne faut pas lâcher ça, parce qu'effectivement, ça...
Il faut être encouragé encore.
Oui,
même
voilà.
Si c'est des petits pas, c'est toujours, c'est toujours utile. Du côté d'Épisol, plus d'affluence peut-être après, avant, après, un constat, non ?
J'ai pas spécialement de constat. Je pense qu'après, forcément, le confinement a mis pour beaucoup de gens un moment de pause, et donc un moment là où les gens ont retrouvé du temps. Et en fait, je reviens un peu sur l'idée de changement culturel aujourd'hui qui est nécessaire pour cette transition. Moi, je me rends compte à travers Épisol que beaucoup de gens, parce qu'on invite beaucoup les adhérents à être bénévoles, ouais. les utilisateurs du magasin à eux aussi participer, c'est que les gens apprennent, passent la transition, font le pas en se rendant volontaire, en faisant du bénévolat, en participant à ces actions. Et c'est aussi un grand biais qui, à mon avis, peut permettre de sensibiliser et d'essaimer, c'est que les gens testent en fait face... du bénévolat, et à travers ça les gens sont beaucoup plus sensibilisés. On parlait tout à l'heure d'information, et en fait parfois l'information suffit pas, en agissant, en faisant par eux-mêmes tout ça, parfois ça marche beaucoup mieux pour les gens.
En lançant déjà l'activité, en se lançant quoi, déjà on prend d'autres informations.
Prendre la culture du bénévolat, ouais, en fait, et du culture. Volontariat qui monte en ce moment en tout cas.
Ouais. Jérémy, un mot sur le...
Oui, sur l'alimentation, il s'est passé des choses. D'une part, parce qu'il y avait des agriculteurs qui avaient des problèmes pour écouler leurs marchandises, puisque les marchés ont été fermés à un certain moment. Donc, du coup, il y a des messages qui ont été passés pour trouver d'autres formes pour acheter les produits. Et en sens inverse, les gens sont durement posé la question, parce qu'on voyait qu'il manquait des trucs dans les magasins quand même. Et donc je pense que tout le monde s'est dit « Ah ouais, quand même, ça serait pas mal de soutenir l'agriculteur à côté de chez moi, ça peut avoir son utilité à un moment ou un autre ». Et donc je pense qu'il y a quand même une grosse prise de conscience là-dessus, et qui est utile, je pense. On voit que ça revient déjà un petit peu à la normale là, mais bon, je pense que le sujet est quand même un peu dans la tête des gens. Ouais, c'est important d'avoir des gens qui produisent de la nourriture pas trop loin de chez nous, et qu'on ait des logistiques qui soient acceptables à ces niveaux-là, quoi.
Alors chacune de vos associations met en avant justement les nouvelles pratiques sociales et, pour un monde plus responsable pour demain, on va dire. Quelles sont les priorités d'après vous aujourd'hui ? Quelles sont les priorités ? Ou s'il y aurait une priorité à donner pour aujourd'hui, quelle serait-elle ? C'est dur. Ouais. Ça peut en être plusieurs, ça peut être un truc qui pour vous est dans le moyen terme, que vous êtes en train de faire, une des actions que vous êtes en train de mener dans le moyen terme.
Les priorités au niveau de nos associations ?
Ouais, au niveau mondial, au niveau national.
De manière très rattachée à mon association, ouais. Merlin pour Épisol, du coup, ouais. Pour moi, une partie essentielle, c'est le vivre ensemble et la mixité sociale, et en fait, casser des inégalités qui aujourd'hui grandissent encore en France. Et vraiment, cette partie mixité, parce que c'est qu'en communiquant, en vivant ensemble, qu'on peut vraiment espérer des transitions. Et enfin, c'est une priorité. Derrière, oui, j'en mets une deuxième, parce qu'il y a quand même un côté militant qu'il faut qu'on ait aujourd'hui pour, on en parlait tout à l'heure, des hiérarchies plus hautes. Si on veut pouvoir faire bouger les choses en haut, il faut qu'aujourd'hui, collectivement, on puisse militanter ensemble.
Jérémy, oui.
Nous, il y a quand même la branche plaidoyer, la branche des obéissances civiles. Et donc nous, l'objectif, si on choisit ces moyens d'action non violente, c'est... déjà pour parce qu'on veut un futur où la violence est la plus basse possible, on imagine qu'on va vers un avenir pas forcément très reluisant si on n'a pas une baisse drastique et rapide de nos émissions de gaz à effet de serre. Et donc on agit de la manière dont on veut que ce à quoi on veut que la société ressemble, mais c'est aussi pour faire croître le mouvement, parce que voilà, on sait que c'est des... Il y a pas mal de gens qui peuvent se reconnaître dans ces mouvements-là. Et c'est beaucoup plus facile pour des gens de soutenir ces modes d'action-là, même quand on a affaire des campagnes de pression sur des banques, sur éventuellement des élus quand c'est nécessaire. Donc, notre objectif, c'est qu'il y ait de plus en plus de gens qui s'impliquent, qui se renseignent sur ces questions-là, qui s'engagent et qu'on arrive vraiment à créer des mouvements de pression. Alors, toujours dans un cadre démocratique, tout ce qu'on défend, on l'explique très bien, on est capable de le justifier. Voilà. Il ne s'agit pas de faire quelque chose de putschiste, mais on a vraiment besoin de créer du rapport de force avec les grandes structures financières, vis-à-vis de nos élus, quand ils font des discours qui vont dans un sens et qui font exactement l'inverse. C'est grave, ça détruit la confiance dans la démocratie, ça a tendance à neutraliser l'action, on a l'impression qu'il se passe quelque chose alors qu'il se passe strictement rien, qu'on avance vraiment très, très, beaucoup trop lentement dans la bonne direction, si tant est qu'on avance dans la bonne direction, parce que le réchauffement climatique, lui, il avance aussi pendant ce temps. Donc oui, nous, l'objectif, c'est de créer des mouvements massifs, citoyens, engagés, et qui soient prêts à construire du rapport de force vis-à-vis du politique, de l'économie et de la finance. Donc ça, c'est notre créneau et c'est ce qu'on essaye de construire. Donc on a besoin de recruter des gens.
Yes, les auditeurs qui nous entendent, c'est le moment. Justement, où est-ce qu'on peut retrouver vos structures? Comment on peut faire appel à vous, se renseigner, rejoindre? Est-ce que sur Internet, est-ce qu'il y a des locaux dédiés? Je vous laisse faire ces petites infos.
J'enchaîne, donc toujours pour Alternatiba, on a un site Alternatiba Grenoble, il y a aussi un site national, vous pouvez nous contacter par là, il y a un formulaire de contact, une adresse mail, et sinon, voilà, comme c'est le début d'année, on va faire des réunions d'accueil des nouveaux, donc on en a une prévue au bar Le Square le 16 septembre et le 30 septembre, donc à 19h. Et on a aussi un camp climat là, qui va avoir lieu à la fin du mois sur les 25, 26, 27. Donc c'est un vendredi, samedi, dimanche et septembre. Et voilà, donc là, il y aura à peu près une centaine de personnes et des formations sur le militantisme, la communication, différentes choses par rapport au climat et à ce qu'on fait en pratique.
Très bien, merci. Brigitte, Alpes Solidaires.
Alors, un site, ouais. Voilà, c'est un peu l'objet de une partie de son activité. Donc, vous retrouvez les informations sur le site. Le principe du site d'Alpes Solidaires, c'est que c'est un site collaboratif. Les structures, les associations d'économie sociale et solidaire peuvent contribuer, pas forcément uniquement donner des informations sur leur actualité, mais proposer des articles, proposer d'être le support d'une réflexion, le support d'un reportage qui peut être après effectivement transmis sur le site. Nous avons des locaux à la maison des associations, mais on va dire que pour l'instant c'est un peu compliqué en termes d'accès, et que le mieux c'est d'utiliser l'adresse mail d'Alpes Solidaires, donc qui est contact@alpesolidaires.org.
Merci Brigitte.
Alors,
Franck.
Oui, Franck pour les habiles. Alors déjà pour découvrir l'habitat participatif, eh ben, c'est pile poil le bon moment puisque en septembre là, de cette année a lieu les journées portes ouvertes européennes de l'habitat participatif. Donc dans l'agglo, il y a une dizaine de projets qui ouvrent leurs portes en septembre. Donc toutes les dates sont sur notre site. Donc vous pouvez visiter ces lieux et surtout rencontrer les habitants qui sont les meilleurs témoins de cette démarche. Voilà. Donc notre site, vous faites les habiles sur votre moteur de recherche et il n'y a pas de souci. Donc il y a le programme. Aussi, on a des ateliers ouverts à tous tous les premiers lundis du mois. Donc ça redémarre dès lundi prochain, ça va être le 7 septembre, c'est à 19h à la Maison de la Nature et de l'Environnement. Voilà, donc là aussi, c'est les infos sur notre site. Donc là, l'atelier de rentrée, c'est comment démarrer un projet et il y aura des témoignages de groupe. Voilà, et puis autrement, on peut nous contacter via le site internet, il n'y a pas de souci. Voilà.
Très bien, merci.
Et du coup pour Episol, le mieux aujourd'hui c'est sur place quand même pour prendre, pour s'intéresser au projet, chercher à faire du bénévolat, etc. Donc au magasin 45 rue Général Ferrier à Grenoble. Derrière aussi, on est beaucoup en contact avec le CCAS, notamment pour notre autre axe qui sont les paniers solidaires, donc ce système d'AMAP que je décrivais en tarification solidaire, qui se développe dans toutes les maisons des habitants. Donc les maisons des habitants sur Grenoble aussi sont des bons points de source pour entendre parler d'Episol. Et on a évidemment un numéro de téléphone qu'on peut retrouver sur internet avec Episol et un site qui est à refaire aujourd'hui, qui est dans les projets, mais qui va être mis à jour. Et on espère qu'on pourra aussi un peu plus rayonner sur internet.
Très bien. Eh bien, merci beaucoup à tous les quatre d'avoir passé ce petit moment sur notre antenne. Et puis, bonne continuation et force à vous pour tous les restes des projets et puis pour cette nouvelle année qui s'entame. Voilà, en tout cas, merci d'avoir été présent avec nous dans cette journée. Toujours en direct, on va clôturer toujours en direct du Palais des Sports. Si vous nous rejoignez à l'antenne de News, et ben c'est la fin de cette journée marathon en plateau. Voilà, donc on a passé plusieurs associations en revue et on les remercie toutes d'avoir répondu à l'appel. Merci encore à tous de nous avoir suivis. Merci Christophe pour ton taf et merci aussi Binge pour le tien à la technique que vous ne voyez pas mais qui est là. Nous, on va vous laisser avec de la musique. Merci, au revoir.